à peine vraiment. Plein de poux, d'oignons, la tête en sang. Au petit matin, je me sens pas bien. Et je ne me souviens plus de rien. Ma tête résonne comme un bourdon au fond de cette sombre prison. J'ai dû tout péter quelque part pour un demi leurs sales histoires, mais ça se finit toujours comme ça. Faire n'importe quoi, j'adore ça.
Donc Bruno Pérez, je suis psychologue et je suis directeur du Calme à Cabris. Mais à notre connaissance, nous sommes la seule clinique coopérative de France. L'idée générale étant que, en fait, dans notre établissement, il n'y a pas de, dans notre société, on va dire, il n'y a pas le pouvoir de l'argent, puisqu'en fait, la société, la clinique appartient à tous les gens qui y travaillent. Dans une coopérative, c'est un être humain, une voix. Voilà. Alors, bien sûr, on a toujours essayé de faire en sorte, c'est encore une particularité de la coopérative, que les salaires les plus bas soient les moins bas possibles, et que les salaires les plus hauts soient les moins hauts possibles. Je souris parce que c'est le mien, c'est mon cas, quoi. Ben, en gros, si vous voulez, notre règle, c'est que la personne la mieux payée soit payée au maximum 3 fois plus que la personne la moins bien payée. Au-dessus du SMIC pour le plus bas, et si on parle en net, et pour le plus élevé, moi, je gagne 3 250. On n'est vraiment pas dans la logique d'enrichissement personnel, on est dans la logique de qualité des soins. C'est d'ailleurs quelque chose aussi que nous espérions dans la forme coopérative pour une clinique, ce qui pourrait peut-être être le plus proche du versant thérapeutique que nous avons choisi. Puisque la cure elle-même, la relation thérapeutique, qu'on appelle la thérapie institutionnelle, est elle-même issue d'un courant humaniste. Donc il semblerait qu'il y ait une assez bonne correspondance entre la forme juridique choisie et la forme thérapeutique choisie. La thérapie institutionnelle est une longue histoire qui est née à peu près pendant la guerre dans un mouvement psychiatrique que les psychiatres, psychanalystes courageux ont appelé à l'époque l'antipsychiatrie. Et un des éléments de l'antipsychiatrie était appelé à l'époque la thérapie institutionnelle ou la psychothérapie institutionnelle. Alors, il y a beaucoup d'éléments que nous avons adaptés dans les années 74-75 pour l'alcoolisme. C'est pas tout à fait la même chose que les établissements qui fonctionnent en thérapie institutionnelle en psychiatrie pure. Mais on en a gardé un certain nombre de principes, notamment un certain mode de relation au patient, le fait qu'on porte pas de blouse blanche, qu'ils nous tutoient, on les tutoie, on s'appelle par le prénom. Pour nous, c'est se mettre sur un pied d'égalité avec les patients. Le fait aussi que dans l'équipe, il y a des gens qui ont vécu le problème alcool, qui s'en sont sortis et qui maintenant travaillent dans l'établissement. En gros, une des idées fondamentales, c'est de donner au patient le maximum de pouvoir sur son propre soin. Et non pas des soignants qui le soignent et qui lui disent comment vivre, mais accompagner le patient dans la direction où il souhaite aller. C'est plus difficile, mais pour nous, c'est fondamental. Et est-ce qu'on va soigner au calme? Bien sûr, il y a la première partie indispensable et pour tout le monde, qui est le sevrage. Mais pour nous, le sevrage n'est pas l'objectif. L'abstinence d'alcool n'est pas l'objectif. L'objectif de la cure au calme, c'est d'essayer de repérer, de dénouer les problématiques psycho-affectives qui sont à l'origine de l'alcoolisation.
Et ça fonctionne? Enfin, on peut estimer les taux de réussite ou...
Oui, on a une idée, c'est un peu plus de la moitié des gens, si vous voulez. En gros, il y a à peu près un tiers qui vont rechuter dans l'alcool, et puis un peu plus de la moitié qui va vivre le reste de sa vie sans alcool ni psychotrope, avec une bonne qualité de vie. Et la petite tranche du milieu, nous on les appelle fragiles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alcool, mais il y a encore des psychotropes ou des drogues, ou alors au questionnaire de qualité de vie, puisqu'on suit les gens 6 mois, 5 ans après la cure, etc. Et vont avoir un score assez bas. Donc c'est des personnes qui boivent plus d'alcool, mais qui ne sont pas heureuses, satisfaites de leur vie, je dirais.
Voilà comment fonctionne le calme, centre d'action et de libération des malades éthyliques, je le rappelle, dont l'existence est menacée. Il existe une pétition sur Internet. Si vous tapez calme et Cabris, c'est AS calme Cabris, vous retrouvez facilement cette pétition. On vous l'indiquera à la fin de l'émission plus précisément, et sur le site France Inter, à la page là-bas, si j'y suis. Ça nous semble intéressant de voir ces fonctionnements et comment, effectivement, le but, et comme le disait tout à l'heure Catherine, l'infirmière, c'est vis-à-vis de ces curistes, de ces